portrait de prof. Les enseignants du collège Jacques Prévert prennent la parole sur Radio Prévert 105.9.
Bonjour à tous, vous êtes toujours sur Radio Prévert 105.9 et aujourd'hui on va parler enseignement. On reçoit Monsieur Robin Biotois, l'un des professeurs d'histoire-géographie du collège Jacques Prévert. Bonjour Robin Biotois.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous dire pourquoi avoir choisi ce métier et en particulier la discipline qu'est l'histoire ?
Alors c'est difficile d'expliquer, disons que j'ai toujours bien aimé l'histoire. Okay. Ça doit venir aussi de mes parents en partie, voilà, qui m'ont bien éduqué en ce sens. J'ai toujours été intéressé par les différentes périodes historiques, ces mondes un petit peu imaginaires, révolus, mais voilà. Mmh. Je me plais bien là-dedans. Et puis l'enseignement, je pense que c'est le plaisir de transmettre.
Ouais.
Ouais. Je pense que j'aime transmettre, clairement. Et donc du coup, enseigner l'histoire, ça me paraissait être assez évident, dans le sens où je pouvais faire ça, tout en associant ma passion pour les périodes historiques.
Mais t'as su assez rapidement que tu voulais faire ça, genre au collège?
Non, pas plus que ça, c'était pas forcément très tôt. Je pense que ça s'est formé à peu près quand j'étais au lycée, mais j'avais aucune certitude.
Okay.
C'est ce que je dis d'ailleurs souvent aux élèves, quand on parle d'orientation, ça peut venir bien après. Disons que j'y suis allé un petit peu par intuition. Mais je pense que vraiment l'idée d'être prof d'histoire, c'est pas venu avant la terminale, où j'hésitais beaucoup à aller j'hésitais à aller en fac de géographie, j'aimais bien la cartographie, j'hésitais même, j'avais mis dans mes vœux pour aller en IUT génie civil, enfin des choses qui n'ont rien à voir, j'étais pas hyper sûr de moi, puis finalement j'ai choisi la fac d'histoire, j'ai trouvé quelque chose qui me convenait totalement, et à la fac d'histoire après c'est un petit peu le chemin guidé pour l'enseignement.
T'avais le domaine histoire, pour toi c'était ça, le domaine histoire, mais est-ce que c'était vrai l'enseignement aussi direct? Alors, t'as pensé à ça ou c'était pas trop...
Non, avant tout c'était l'histoire.
Ouais.
Effectivement, ouais. Avant tout c'était l'histoire. Alors, ça m'est arrivé à ce moment-là de m'imaginer enseignant et de me dire ce serait peut-être pas mal, je me verrais peut-être bien ou je me sentirais capable de le faire. Mais après, quand on a 17-18 ans, ça paraît tellement loin, on sait qu'il y a des longues études qui nous attendent, etc. Donc c'est très flou. Ça s'est précisé au fur et à mesure de la fac. Parce que de toute manière, la fac d'histoire fait qu'il n'y a pas beaucoup d'autres débouchés. Donc tout doucement, on est amené vers ce projet-là d'orientation. Mais ça s'est confirmé au fur et à mesure. Et puis après, les premiers stages m'ont donné le goût à ça, m'ont fait dire que ça me plaisait vraiment. Et c'est là que je me suis vraiment investi dedans.
D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ton parcours scolaire, quel bac t'as fait? Du coup, t'as fait une fac d'histoire, t'as dit?
Ouais, fac d'histoire, ouais.
Un bac...
J'ai fait un bac S.
Un bac S, oui.
Ce qui peut paraître un peu surprenant, mais il n'y a rien de... C'est pareil, c'est aussi des choses que je dis, même si là, les bacs ont changé. C'est aussi des choses que je dis aux élèves, il n'y a pas de bac forcément préférentiel. Je me rappelle, on nous proposait surtout le bac ES, notamment le bac L pour l'histoire, mais un bac S, c'était pas du tout dérangeant. En fait, juste allé, j'ai suivi un peu mes copains, j'aimais bien les sciences, Il n'y a pas forcément beaucoup moins d'histoire, donc ça ne m'a absolument pas gêné pour intégrer la fac.
C'était assez facile de rentrer en fac d'histoire.
Oui, absolument pas.
D'accord. Du coup, je pense que les premiers jours en tant qu'enseignant, c'est assez difficile. Comment tu les as vécus ?
Ils n'ont pas été difficiles.
D'accord.
Pour le coup, je ne dis pas ça, je dis ça sans prétention ni rien, mais je dois dire que j'ai eu de la chance et que tout se passe bien. Tout s'est bien passé, après ma fac d'histoire, j'ai passé le concours, bien évidemment. D'accord. Puis j'ai été muté directement en région parisienne.
D'accord.
Dans l'académie de Créteil.
Oui.
Donc ça, c'était plus difficile que les premiers jours vraiment d'enseignement. C'est-à-dire que le déracinement, partir dans une région qu'on ne connaît pas. Géographiquement, j'entends savoir où habiter, tout va très vite. Et du coup, il faut trouver un appartement, bref, se déplacer et prendre connaissance. C'est que des gens qu'on ne connaît pas. Et ça, c'était moins évident. Et la rentrée, pour le coup, c'est bien passé dans un lycée.
Comment ça se passe? Est-ce qu'on est tout de suite professeur titulaire ou on fait des remplacements
Alors, les expériences que j'ai eues, c'est durant mon master enseignement, j'ai fait quelques stages.
D'accord.
Mais c'est des stages très brefs quand même. Après, ils sont toujours utiles, évidemment, parce que c'est quand même un premier...
Mais c'est des stages, est-ce qu'on a avec un prof, on observe un peu ou directement...
Alors, on a des stages d'observation, où vraiment on est au fond de la classe et donc on observe beaucoup. Mais on est censé prendre... une heure ou deux, si on se sent bien. Et
d'accord.
Suivant, après, comment ça marche avec le professeur qui nous accueille. La classe, donc ça, c'est nos premiers, cours, tout simplement. Et puis après, on fait un stage de... Je ne sais plus exactement comment il l'appelait, mais un stage un petit peu plus long, où là, on remplaçait véritablement, après un petit peu d'observation, on prenait en charge toutes les classes du professeur. On était à deux, donc le travail était divisé par deux,
d'accord.
Pendant deux semaines. Alors, c'est assez maigre, mais bon, au moins, ça a le mérite d'exister.
Oui.
Et du coup, après avoir eu mon concours... Voilà, en septembre, là, par contre, j'étais fonctionnaire stagiaire. Donc, on est à temps. À l'époque, c'était un petit peu réduit. On était à 15 heures de cours devant élèves. Et du coup, bah, tout commence le 1er septembre. Un petit peu avant même, parce qu'on a des réunions aux stagiaires, mais vraiment avec les élèves, c'est le 1er septembre, comme tous les professeurs. Et on découvre nos classes, notre emploi du temps.
Quand tu arrives devant une classe de 30 élèves, c'est impressionnant ou tu te dis, bon...
Ça fait quelque chose, Après, c'est un moment qui est un petit peu stressant, évidemment. Hein. Tout dépend après comment on se sent, évidemment, à l'aise à l'oral, on se sent devant les gens, notre degré de confiance en soi, etc., notre préparation. Après, disons qu'avec la fac, les concours, on commence à avoir l'habitude d'être dans une position de stress, de s'exprimer devant des gens à l'oral, de ne pas être toujours bon non plus. Donc après, chacun a sa propre sensibilité aussi. Et ça fait que une rentrée ou une heure de cours peut être très, très différente. Après, c'était quand même un peu plus impressionnant parce que c'était des lycéens. Voilà, donc quand j'ai commencé...
Ah, c'était dans un lycée, ta première.
Ouais, donc quand j'ai commencé, je crois que j'avais à peine 23.
Ah oui, dans un
donc on m'a donné des... On n'était pas prévenu en plus, c'était assez rancombolesque parce que le poste n'était pas prévu pour un stagiaire. Donc c'est-à-dire que j'ai eu des terminales. Donc il y avait très peu d'écart avec moi, des terminales, qui juste pour des cours de CJS au lycée s'appelle d'enseignement à la civique. Donc c'était pas des circonstances hyper favorables, mais j'avais déjà une tutrice qui était super, qui m'a vraiment bien encadré, bien aidé. Et puis il y a le petit stress comme quand on arrive sur une scène à l'oral la première heure, et puis une fois qu'on a réussi à bien poser les bases, c'est vraiment déterminant, la première heure elle est déterminante, et puis après une fois qu'on a pris le rythme et que les élèves ont compris en gros comment le cours fonctionnerait cette année, à partir du moment où ils comprendront qu'ils sont là pour travailler et pas pour autre chose, on peut prendre la confiance et tout s'améliore tout même avec la pratique.
Comment ça se passe? C'est au feeling, tu te dis, je vais essayer de faire cool, mais qu'on bosse, mais tu te dis, je vais être le prof autoritaire. Souvent, dans le collège, lui, il est cool, lui, il est autoritaire.
Oui,
c'est comme
vrai.
Ça
dépend beaucoup des personnalités. Je sais qu'il y a... On y réfléchit forcément à un moment donné. Surtout quand on va commencer, on se dit, est-ce qu'il va falloir que je sois hyper strict? Est-ce qu'il va falloir que je force le trait? Après, je pense que l'important, moi, ce que je me suis dit, c'est pas non plus de forcer sa personnalité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plus stricts d'autres par nature, qui sont plus froids que d'autres par nature, au contraire, d'autres qui sont un petit peu plus... C'est au professeur, il ne faut pas qu'il se mette en porte-à-faux avec lui-même. J'ai dit souvent qu'être professeur, c'est quand même accepter de jouer un rôle. Des fois, on fait semblant un petit peu de s'énerver, des fois, on se met en colère un peu plus exprès, parce qu'on sait qu'on doit, que c'est important pour le reste de l'année. Mais après, il ne faut pas non plus que ce soit trop en décalage avec soi-même. Sinon... Je pense que c'est pas vraiment tenable et que c'est trop faux. Après, l'approche par rapport aux élèves, c'est comme chacun le sent aussi.
Oui.
Je sais que évidemment, faut pas du tout négliger l'autorité et faut savoir être ferme, d'accord. Mais plus que tout, faut savoir s'adapter au public. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut adapter, enfin du moins qu'on doit accepter de certains élèves ou non, certaines classes. Et il faut bien garder en tête, je pense que tout n'est pas de notre responsabilité.
D'accord.
Alors après, du coup, le mélange, l'équilibre à trouver est assez personnel. Il faut bien jongler effectivement entre le côté l'autorité et puis en même temps, je pense qu'un cours ça doit pas être non plus une confrontation, c'est-à-dire que c'est un échange avec les élèves, donc il faut que le climat soit apaisé et si possible qu'il y ait une bonne relation avec les élèves. Je pense que c'est très important, des élèves apprendront toujours mieux quand il y a une bonne entente avec le professeur et inversement le professeur sera toujours plus à l'aise de venir en cours. Si on est dans un contexte agréable, tout simplement, où il n'y a pas de tension, où on n'est pas en conflit, etc. Si au début, on ne pose pas des bases et des cadres, là, après, c'est très difficile de revenir en arrière. Tout le monde le comprend, tout le monde le sait.
Oui, c'est sûr.
Et donc, du coup, il vaut peut-être mieux être un petit peu trop strict. Après, ça dépend, encore une fois, vraiment de l'interaction qu'il y a.
C'est sûr.
Les élèves aussi ont des personnalités. Ils ont aussi leur libre arbitre. Il faut qu'ils assument aussi leurs actes et leurs paroles, donc c'est à eux aussi d'être responsables, que l'on soit en 6e ou en terminale.
C'est différent avec chaque classe et chaque élève, de toute façon.
Exactement, c'est sûr.
Et c'est un choix de travailler au collège de Jacques Prévert, pourquoi un collège plutôt qu'un lycée, par exemple ?
Alors, au début, j'étais plus parti pour le lycée, dans ma tête, et j'ai bien aimé ma première année de lycée, parce que les cours sont un petit peu plus poussés en termes intellectuels, le contenu, le rapport aux élèves est un petit peu plus mature, c'est ça qui m'intéressait. Donc après, j'ai été muté au collège toujours en région parisienne, juste à côté, j'ai pas changé d'endroit. Ça m'a bien plu. Finalement, j'ai découvert un autre rapport avec les enfants que j'avais déjà entreaperçu en stage, mais voilà, sur tout le long d'une année. En plus, j'ai été tout de suite professeur principal d'une classe de 6e. Donc, c'est vraiment pas le même lien, le même rapport avec les collégiens. Le cours, c'est différent aussi parce qu'on aurait tendance à se dire que voilà, c'est moins dur, oui, en termes scientifiques. Voilà, mais par contre, ça demande plus d'adaptation pédagogique et ça, ça me plaît. Et donc, en fait, après, quand j'ai fait ma demande de mutation pour revenir en Bourgogne, parce que je suis d'ici à la base, voilà, j'ai eu la chance d'avoir un poste au collège Jacques Prévert.
D'accord.
Et le hasard fait que j'étais venu en stage ici.
Ah oui.
Donc, je connaissais déjà un petit peu les lieux. Donc, quand j'étais venu en stage, certains élèves étaient en 6e et j'en ai retrouvé en 3e quand je suis arrivé en tant que prof titulaire. Donc, c'était assez rigolo. Mais du coup, voilà, c'est vraiment, c'était une des meilleures nouvelles qui pouvait tomber. Oui, oui. Déjà, d'un point de vue par rapport à où j'habite, enfin, mes proches, etc. Donc, j'étais vraiment content de revenir à Chalon. Et en plus, enfin, moi, je me plais vraiment dans ce collège. Je m'épanouis dans ce collège.
Combien d'années que tu es au collège Jacques Prévert ?
Alors, sauf faire de ma part, parce que j'ai du mal à compter, ça doit faire ma 5e rentrée.
5e rentrée.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et oui, est-ce que tu pourrais faire toute ta carrière dans un collège où tu dis... je vais aller dans un lycée où tu te projettes, où tu dis pour l'instant ça se passe comme ça et on verra.
C'est vrai qu'on voit souvent ce cheminement là, des professeurs longtemps au collège et après qui cherchent à muter au lycée. Alors j'avoue que moi pour l'instant, j'y pense pas spécialement parce que déjà d'une, je me sens très utile ici. Ensuite, j'aime vraiment bien le contact de ces élèves-là. Voilà, j'ai aussi la chance maintenant d'avoir ma place, en fait. J'ai ma salle, ouais, je connais un petit peu les familles, j'ai des collègues qui sont super, donc on tisse vraiment des vraies relations. Et puis, l'idée de changer, pour l'instant, ne me traverse pas l'esprit. Je verrai plus tard, je ne peux pas dire que je ferai toute ma carrière ici, parce que c'est long, quoi. Mais, pour l'instant, vraiment, je me sens utile ici, je m'épanouis ici, et surtout, je pense qu'il faut aussi se satisfaire de ce qu'on a. J'ai la chance d'avoir un poste plein, à temps plein, ici, dans un collège de Chalon, en ville, à quelques, à 10 minutes de chez moi. Et donc, rien que pour ça, je pense qu'il faut savoir aussi apprécier sa situation.
Oui, c'est sûr.
Je suis bien où je suis, je m'estime chanceux.
Ton géographie, c'est assez vaste. Est-ce que certains thèmes sont assez compliqués à enseigner à de jeunes élèves, comme la Shoah, la déportation, donc comment ça se passe? Est-ce qu'on arrive à faire comprendre l'importance et la gravité de ces actes?
Alors, je viens de le faire. C'est marrant, je viens de le finir avec mes classes de 3e. Enfin, il y en a une, je le finis demain, mais l'autre, je viens de finir. Difficile, je sais pas si c'est le bon mot. Disons que c'est pas évident, des sujets qui sont délicats, c'est vrai. Mais en termes d'enseignement, si on l'amène bien et que il n'y a pas de problème particulier avec les élèves. Après, certains sont plus sensibles que d'autres aussi, effectivement, donc ça les marque plus ou moins. Ce qu'il y a de plutôt délicat, et c'est ce qu'il y a de difficile... quand on est prof d'histoire, je pense, mais aussi dans d'autres matières, c'est de faire prendre conscience aux élèves que c'est vraiment des choses qui se sont passées et de faire en sorte qu'ils conçoivent un petit peu que c'est des choses vraies et d'essayer d'un petit peu s'imaginer de ce qui
s'est passé. Je pense que ça peut paraître assez irréel, je pense, quand t'es au collège, t'es jeune comme ça.
C'est ça. Parce qu'après, c'est pas... c'est le contexte aussi qui fait qu'on est des générations, on est très habitué à l'image. On a de l'accès à plein de vidéos, etc., de contenu. Donc, on est un petit peu... Les élèves le sont, ça se voit, ça se remarque qu'ils sont moins impressionnés. Moins impressionnés par les images, ils sont un petit peu plus blasés par les choses, ils ont moins d'intention.
D'accord.
Alors, des fois, du coup, c'est difficile un petit peu. On a envie de les secouer, de les alerter. Mais regardez, là, c'est vraiment des choses vraies. Mais ça marche pour tous les sujets, je veux dire. C'est essayer de vous représenter, là, ce que vous voyez, c'est des choses importantes. Il faut en prendre compte. Bon, après, il y a des élèves, la plupart des élèves se sentent quand même, sont intéressés, se sentent concernés pour le sujet. Parce que, quand on est aussi enfant, adolescent, on vit un petit peu dans notre bulle, c'est normal. Puis, on ne se rend pas compte de certaines choses qui se passent ou qui se sont passées. Alors, c'est vrai qu'on essaye un petit peu d'attirer l'attention en mettant des images un petit peu choquantes, un petit peu dures. Mais ça fait partie aussi de leur apprentissage en tant que citoyen. Après, certains, c'est vrai qu'ils le supportent un peu moins bien que d'autres.
D'accord.
C'est vrai. Certains sont plus sensibles que d'autres.
Est-ce que c'est en troisième que c'est enseigné, ça?
C'est en troisième, c'est au programme de troisième.
Est-ce que c'est trop tôt, trop tard
Non, je pense que c'est bien. Tout de même, ils l'abordent déjà un petit peu en général en primaire. Voilà, ils en parlent, ils savent, ils ont déjà entendu parler. Après, c'est suivant si leur instituteur, est-ce qu'ils vont un petit peu plus loin dans le sujet ou pas. Mais ils ont déjà, normalement, quelques petites notions. Et après, en troisième, c'est dans l'ordre logique des choses, c'est-à-dire que la troisième, c'est le 20e siècle, jusqu'à nos jours, donc ça fait partie du thème qu'on doit aborder, les guerres mondiales, les totalitarismes, etc. Et donc, par exemple, ce sujet, ça en fait partie. Après, on n'est pas censé s'y attarder non plus, on y accorde quelques heures, je pense que c'est suffisant. Vaut mieux quelques heures efficaces plutôt que de traîner dessus trop longtemps, là, où là ce serait pas forcément productif et efficace.
Comment ça se passe, le programme? Est-ce qu'on est obligé de respecter à 100% le programme?
Quand les programmes changent, on reçoit des directives, on a des ressources sur les sites académiques qui nous disent, pour chaque matière, respectivement, vous devez aborder ça. L'histoire fait que aussi, tout n'est pas renouvelé à 100%. C'est logique, voilà, on est obligé d'aborder certaines choses disparaissent plus ou moins, réapparaissent selon les programmes. Mais il y a des choses qui sont incontournables. Par exemple, les Secondes Guerres mondiales, quel que soit, je pense que le programme, elles y seront toujours. En histoire, on retrouve les grands découpages, le Moyen-Âge, etc., l'Antiquité, la période contemporaine. Et après, les thèmes reviennent souvent. Alors, certains chapitres sont moins développés que d'autres, certains disparaissent, mais... Après, moi, je pense qu'on aurait meilleur compte à enlever un petit peu et à faire mieux certaines choses. Disons, à consacrer
Rentrer plus dans les détails.
Peut-être. Ou alors prendre le peut-être pas forcément dans les détails en termes de connaissances, mais prendre plus le temps que les élèves d'être moins sous... La pression du timing.
Pendant un chapitre, au lieu de passer qu'une journée, plusieurs cours dessus pour leur faire bien comprendre.
Peut-être les évaluer d'une autre manière, que ce soit sous forme de travaux de groupe ou de travaux un petit peu plus artistiques, des créations qui fonctionnent très bien, mais ça nécessite beaucoup plus de temps.
Pour toi, quelle est l'importance de transmettre des connaissances à de jeunes élèves ou...
Après, moi je leur dis souvent que ma matière leur sert, comme d'autres, mais leur sert vraiment à comprendre le monde. Et j'entends par là que apprendre des connaissances, avoir de la culture générale, c'est surtout, je leur dis que c'est des outils pour réfléchir. Tout ce qu'ils pourront apprendre et accumuler comme savoir, ils ne pourront pas tout retenir, mais c'est ce qui va leur permettre justement d'avoir de la réflexion, d'avoir de l'esprit critique. C'est indispensable pour tout de même, pour bien réfléchir, pour bien comprendre le sens d'un texte, le sens d'une image, le sens d'un discours. C'est indispensable d'avoir des références, d'avoir du vocabulaire, du contenu. Et après, tout en histoire n'est pas forcément utile, parce qu'on entend souvent à quoi ça sert d'apprendre certaines choses d'histoire, parce que aujourd'hui, ça ne nous sert à rien, ou on est très éloigné de ce qui se passait. Alors, c'est vrai, des choses qui ont quasiment plus de rapport avec notre monde. Mais, encore une fois, c'est quelque chose de transversal, c'est de la réflexion. C'est-à-dire qu'apprendre à réfléchir sur une image du début du XXe siècle ou d'apprendre à réfléchir sur un texte du Moyen-Âge, ça, justement, contribue à avoir de la méthode et de la réflexion pour analyser quelque chose. Donc, ça peut servir tout le temps.
D'accord.
Et pour n'importe quoi, en fait.
Alors, il y a un sujet qui prend de plus en plus d'importance dans notre société. C'est les questions environnementales. Est-ce que c'est de plus en plus abordé dans ta matière, ou même plus généralement dans le collège, avec des projets pour sensibiliser les jeunes?
Alors, c'est vrai qu'il y a quelques années, ou avec les anciens programmes, il n'y avait pas encore une place énorme consacrée à tout ce qui était développement durable. Là, c'est beaucoup plus fort maintenant.
D'accord.
Dans les derniers programmes, et puis surtout dans le programme de 5e, où c'est quand même les questions de développement et aussi, des ressources. C'est vraiment la ligne directrice du programme de 5e en géographie. De manière générale, par des thèmes de géographie sont rattachés un petit peu avec le développement durable, l'idée d'un développement durable. Comment est-ce qu'on peut aménager tel endroit de façon durable? Comment est-ce qu'on peut se déplacer de façon durable? Donc ça a pénétré un petit peu tous les thèmes.
D'accord. Ouais.
Voilà. Après, c'est vraiment en 5e qu'on va parler des ressources. Comment mieux cultiver, mieux manger, mieux consommer l'eau, consommer plus intelligemment l'énergie, etc. C'est surtout là. Donc ça... c'est évidemment hyper important. Donc prends le temps de beaucoup travailler là-dessus.
D'accord, ouais.
Et j'essaie de plus centrer ça sur leur pratique à eux. Sur vraiment comment est-ce que vous mangez, comment est-ce que est-ce que vous éteignez les lumières quand vous êtes chez vous et que vous n'êtes pas dans une salle, est-ce que vous déplacez souvent en voiture, des choses comme ça, pour essayer de leur faire prendre vraiment conscience des enjeux là contemporains, actuels. Parce que c'est la génération où je sais pas quelles responsabilités ils auront, mais au moins, ils auront été éduqués dès tout petit à être attentifs à ça. Alors après, je sais que concrètement, j'aimais bien leur faire faire, je les ai mises dans le couloir, des affiches pour dire aux autres élèves de bien éteindre la lumière ou de ne pas hésiter à consommer des légumes qu'on appelle moches, faire attention aux déchets, etc. Des petites choses comme ça.
Oui.
Après, je pense que ça mériterait d'être encore plus développé.
Oui, dans le collège, même dans les autres matières, parce que... Dans l'histoire, on peut y mettre, dans la géographie, mais est-ce que dans les autres matières, on peut la planter, même en français?
Je pense qu'il faut... en français, je pense que c'est peut-être un petit peu plus difficile. Après, je pense qu'il faut surtout voir du côté de la SVT.
Ouais.
La SVT, oui, c'est je pense sûr, que oui. Ça, je connais pas leur programme là, actuel, mais je pense que c'est vraiment une... Je pense que c'est quelque chose qui doit être un fil directeur de tout leur programme, à mon avis, je pense, ouais, clairement.
Après, je sais pas, parce que même toi, les petites affiches, les petites habitudes comme ça, ça peut paraître... Même en match, tu peux faire des problèmes d'exercices sur l'environnement, des trucs, oui. Juste pour toujours l'avoir dans l'esprit, en fait, pour,
oui, c'est vrai. Pense. C'est possible. Ouais. Après, ça dépend du...
comme ça.
Voilà, ça dépend du professeur, si oui, oui, l'idée non, lui mais... vient, et puis... Mais disons que c'est quelque chose, effectivement, en termes de projet ou de passerelle, c'est quelque chose qui peut permettre de faire collaborer plusieurs matières, ça c'est sûr, ouais, oui. Je pense. Ouais.
La société évolue de plus en plus vite au niveau des nouvelles technologies, des façons de penser, d'agir. Or, on lit souvent que le système scolaire français n'a très peu changé que depuis des dizaines d'années. Qu'en penses-tu ?
Oui, alors après, c'est souvent commode. Disons que c'est facile un petit peu de dire ça et de faire retomber sur l'école des choses qu'on constate dans la société, dans la vie de tous les jours. Je pense évidemment qu'il y a des choses à redire sur l'enseignement. Évidemment que je pense que notre système d'enseignement pourrait être amélioré. Il y a toujours des choses... voilà, c'est toujours discutable et je pense vraiment qu'il y a des choses à faire progresser. Après, je pense que c'est important aussi de bien garder en tête que l'école, elle n'est pas responsable de tout. Enfin, l'enseignement général, et voilà, je pense que l'école n'est pas responsable de tout. C'est-à-dire qu'elle doit s'adapter, évidemment, aux enjeux de maintenant. Donc, par exemple, comme tu as dit, les nouvelles technologies ou, je sais pas, le rapport aux réseaux sociaux, enfin, plein de sujets très concrets là de maintenant, de l'ère du temps. Mais en même temps, il faut pas oublier que l'école, nous, les professeurs, on voit les élèves quelques heures par semaine. Le reste de leur éducation... et leur apprentissage se fait essentiellement sans nous. Ça, faut pas oublier. C'est, voilà, on a l'impression qu'ils sont, oui, ils sont longtemps à l'école, ouais, une trentaine d'heures par semaine. Mais après, si on divise par chaque professeur, c'est que quelques heures. Moi, mes élèves, je les vois 3 heures dans la semaine. Ouais, c'est vite fait. Et le reste, bah, ils l'apprennent à la maison, ils l'apprennent dans leur environnement social. Voilà. Et c'est là que se joue peut-être plus encore de choses. L'école fait beaucoup, évidemment. Mais c'est aussi à l'extérieur que se construisent beaucoup d'apprentissages, d'habitudes. Et puis de façon de réfléchir.
Mais tu penses que l'école peut continuer comme ça, s'adapter, je sais pas, par exemple, ajouter des écrans, des petits trucs comme ça, ou vraiment changer beaucoup de choses, le truc de base, un élève assis pendant toute une heure de cours, qui écoute un prof, ou faut les faire plus participer?
Alors, je pense qu'il y a des collègues qui ont des méthodes très novatrices, voilà, et heureusement, il y a des choses nouvelles qui se font. Mais je pense qu'il faut faire attention aussi à cette idée qui est un petit peu trop présente aujourd'hui. Je trouve que, comme quoi, le changement est quelque chose de bien en soi. Et je trouve que dans nos logiques, notamment des décisions dans l'éducation nationale, etc., il y a souvent cette idée comme quoi il faut changer pour changer. Parce que le changement, c'est forcément bien. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas. C'est-à-dire qu'il faut accepter... il y a des choses qui fonctionnent bien, il faut les garder aussi. Alors, c'est toute une histoire aussi d'équilibre et de juste milieu, c'est-à-dire que, voilà, c'est sûr que le temps où on faisait un cours presque magistral avec des élèves sans bruit et qui écrivaient beaucoup toutes l'heure de cours, c'est révolu et je pense heureusement que, voilà, on s'est aperçu que c'était pas forcément hyper productif et très efficace par rapport aux enfants. Mais après, en même temps, de la tendance qui veut que, des fois, on entend chez certains qu'il faudrait que le cours soit forcément ludique, sans contrainte. Je pense pas que ce soit une bonne idée, honnêtement.
D'accord.
Je pense qu'il faut savoir un juste milieu, il faut s'adapter et en même temps, voilà, garder certaines bases. Il ne faut pas oublier à un moment que aussi l'enfant, l'élève, il est là pour apprendre dans le sens où bah, on n'est pas dans une relation horizontale par nature. Il y a un enseignant en face de lui qui sait des choses, qui a été formé pour, donc qui est là pour lui transmettre et qui sait un petit peu les choses parce qu'il est plus âgé et puis parce qu'il a eu la formation surtout.
D'accord.
Et donc en même temps, on ne peut pas dire, comme on l'entend certaines fois, voilà, que maintenant il faut que les professeurs laissent faire les élèves, etc. Je pense que c'est une vision qui est biaisée de la réalité de l'enseignement, parce que ben, un enfant, par définition, c'est apprendre, donc il faut le guider. De la même manière, par exemple, on entend beaucoup parler des écrans, voilà, des tablettes, etc. Je pense qu'aussi, c'est une pente glissante, parce qu'on ne peut pas d'un côté dire que les enfants, par exemple, c'est dangereux pour eux de regarder un écran tant d'heures dans la journée, etc. Et on sait, voilà, statistiquement, scientifiquement, que les élèves passent déjà beaucoup de temps devant bah, soit un écran de télé, soit une console, etc., tout mis bout à bout. Et en même temps, dire qu'il faut remplacer les cahiers par une classe sans toute tablette.
Est-ce que certains ont l'impression que c'est le seul moyen de les intéresser, les tablettes, les livres, ça ne les intéresse plus? Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on a l'impression que c'est la seule chose pour les intéresser?
Oui, peut-être. Peut-être que c'est un petit peu une fuite en avant. C'est-à-dire que c'est des atouts. Clairement, bah, par exemple, le numérique, maintenant, moi, je ne pourrais pas faire cours sans mon ordinateur, sans mon vidéoprojecteur, sans mes diaporamas, sans les ressources internet pour les petites vidéos, ça, c'est clair et net. Il faut évidemment l'utiliser, c'est des ressources précieuses qui sont, je pense, quasiment indispensables maintenant. Mais de passer du tout au tout comme ça, je pense que c'est de prendre ça comme on va dire, une solution toute trouvée pour, je sais pas, redonner de l'intérêt ou alors faire progresser en termes de résultats les élèves, je pense que c'est une erreur.
D'accord.
Je pense que c'est une erreur, ouais.
Donc garder les cours, hein, on va dire, classiques. Mais est-ce que, pour avoir plus de pratique, garder les cours classiques, mais avoir une heure de cours dans la semaine qui vient en plus de pratique, ou pour avoir,
ouais,
un peu les deux
possible. Alors après, il faut voir déjà ce qui est faisable par rapport à, aux matières. C'est très différent. Les,
oui,
gens, par exemple, on sait que, voilà, en physique ou en SVT, ils ont déjà des TP, parce que voilà, il y a beaucoup de manipulations.
Oui, voilà.
Après, il faut voir aussi ce qu'on appelle un cours classique. C'est-à-dire, d'accord, que des cours classiques, voilà, comme tels, si on se les imagine, le cours là, avec le professeur qui parle, les élèves qui écrivent pendant une heure, franchement, je connais pas de collègues là, qui font ça,
d'accord,
à l'heure actuelle. Voilà, franchement, surtout au collège, ça n'existe déjà plus. Ça, alors après, chaque collègue a ses propres habitudes, ses propres préférences, et je pense qu'un cours classique, là, les cours tels qu'ils sont maintenant, quand je vois la richesse ou ce que font mes collègues, moi je suis souvent épaté de ce que font mes collègues au niveau de l'imagination, au niveau des inventions ou des procédés là, pédagogiques, je suis déjà souvent, voilà, je me dis qu'il y a vraiment de la créativité et des nouvelles façons d'enseigner qui sont très efficaces, mais tout en restant dans un cadre où quand même, bah voilà, on est dans la classe aussi, et donc il y a des habitudes et puis des rituels qui se mettent en place,
d'accord,
voilà, que les élèves connaissent depuis l'enseignement, la maternelle, et qui vont connaître jusqu'encore
longtemps. Toi, du coup, t'arrives à capter l'intention des élèves pendant toute une heure de cours complète, ou ça, c'est assez difficile? Est-ce que tu y arrives?
C'est faux. Si quelqu'un vous dit qu'il arrive à captiver l'attention d'un élève, enfin, ou d'une classe pendant une heure, c'est pas vrai.
D'accord.
Ou alors il le croit, enfin je veux dire, il le croit, mais c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est humain, c'est-à-dire que même nous maintenant, là,
oui,
adultes,
oui,
alors qu'on sait, par exemple, si on va à une réunion, ou si on suit quelque chose, etc., une conférence, on sait qu'on est attentif, on est raisonnable, etc., on n'arrive pas à maintenir notre attention pendant une heure complète sur une chaise, voilà, à écouter quelqu'un, c'est impossible. Impossible. Donc du coup, il faut accepter que les élèves, dans une heure de cours, ils ont une certaine période où ils vont être très efficaces, parce qu'ils auront beaucoup d'attention, mais en même temps où ils auront des moments où ils vont être un petit peu voilà, moins concentrés, où ils ont besoin un petit peu de discuter voilà, avec leurs camarades, où ils vont s'échapper un petit peu, voilà, être moins attentifs. Ça, il faut l'accepter.
D'accord.
C'est des enfants en plus, donc l'attention a tendance à bouger un petit peu plus facilement. Ils ont 7-8 matières. Vous pouvez être leur 6e, 7e heure de cours. C'est impossible de demander à des élèves d'être attentifs tout le long. Après, c'est le travail aussi d'être le plus... captivant et intéressant pour eux. Mais il faut accepter en même temps que, voilà, vous n'êtes pas un magicien.
Mais est-ce que du coup, ça sert à quelque chose d'avoir une heure de cours à chaque fois, ou faut réduire?
Non, je pense qu'une heure de cours, c'est un format qui... Déjà, c'est même pas une heure de cours, c'est, voilà, c'est 55, plus le temps d'arriver, le temps de s'installer, c'est vite réduit. En fin de compte, une heure effective, 50 minutes, voilà. Sachant que dans cette heure, les élèves, si je crois que scientifiquement, c'est impressionnant. Voilà, c'est quelques dizaines de minutes vraiment d'attention hyper efficace. Donc du coup, puis en plus, qui n'est pas synchronisé, c'est-à-dire qu'un élève peut être à ce moment-là très concentré, puis les autres non, mais pas en même temps. Alors après, c'est sûr que plus on se rend intéressant, plus on a de chances de captiver l'auditoire. Mais après, se rendre intéressant, c'est pas forcément non plus parler pendant une heure. Hein. C'est savoir dire certaines choses au bon moment. C'est savoir, de temps en temps, bah, en histoire, dire alimenter son cours avec des petites anecdotes, des petites connaissances comme ça, voilà. Ou c'est savoir aussi, mais plus que tout, c'est savoir les faire participer.
Oui.
Ouais, les faire participer au cours, c'est ça qui va le rendre intéressant, pour eux comme pour vous qui enseignez. Et en même temps, c'est ça, justement, qui va faire en sorte qu'ils soient concentrés et impliqués dedans.
Du coup, tu commences à avoir de l'expérience en tant qu'enseignant, un petit peu.
Ouais.
Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui veut se lancer, donc qui sait pas trop s'il veut se lancer dans le métier de professeur, ou même un jeune qui a bientôt fini ses études et qui va commencer à exercer prochainement? Quel conseil tu aurais?
Alors, le conseil, évidemment, bah déjà, moi je l'y encourage. C'est bien connu, on dit que c'est le plus beau métier du monde. Alors, il y a beaucoup de choses à redire. C'est sûr que voilà, c'est peut-être pas la meilleure période pour les professeurs, c'est sûr. Mais s'en tient vraiment au travail en lui-même, même si les conditions sont pas idéales, si peut-être voilà, qu'elle se dégrade aussi, c'est quand même vraiment fondamentalement un super métier. Donc du coup, moi, je peux que encourager les gens qui veulent faire ça à le faire. En plus, on en a besoin. Il faut bien avoir conscience que, enfin, une société, elle, à la base, elle commence par là, par l'éducation. On forme le monde de demain, dans un sens. Donc c'est non seulement c'est un métier qui est épanouissant pour soi-même, mais en même temps, c'est un métier où on peut vraiment se sentir utile. Donc là-dessus, c'est surtout des encouragements, et je pousserai la personne. Alors après, un petit peu plus concrètement, voilà, c'est de dire aussi aux gens qui commencent ou qui vont commencer à être enseignants, voilà, c'est de ne pas s'arrêter à une mauvaise expérience si les débuts se passent mal. Voilà, ça peut arriver. Et surtout, garder en tête, à l'avoir dès le début, que on n'est pas responsable de tout, qu'il y a des choses qui échappent à notre contrôle, que si la première rencontre avec une classe se passe pas bien, c'est peut-être pas que notre faute, c'est qu'en face il y a des individus et aussi ils sont maîtres de leurs actes et, comme je disais tout à l'heure, de leurs paroles ou de leurs comportements. Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu, donc surtout, si jamais ne pas s'arrêter à une expérience qui n'est pas forcément satisfaisante, tu auras forcément des déceptions, des remises en cause, mais clairement, c'est un métier qui vaut le coup.
Que ce soit en fin de collège ou fin de lycée, l'orientation, c'est une étape assez compliquée pour un jeune. Que penses-tu des procédures mises en place pour l'orientation, pour le passage de la troisième au lycée, par exemple ?
Oui, alors, au collège, il y a quand même un gros travail de fait sur l'orientation. En général, c'est des choses qu'on aborde dès la quatrième, petit à petit, voilà, faire penser aux élèves, à réfléchir à quel métier les intéresserait, ou du moins quel domaine de métier, ne serait-ce que d'y réfléchir un petit peu, voilà, d'y penser. On commence à leur parler des différentes filières au lycée. Bon, bah là, c'est en train d'être tout bouleversé, donc voilà, faudra se mettre à jour, mais franchement, en général, c'est pris quand même assez tôt dès la quatrième. Et puis après, c'est surtout aussi pour qu'en troisième, ils puissent affiner leur projet le plus vite possible, parce que ils ont d'autres choses auxquelles penser, le DNB, voilà, les changements qui vont arriver l'année d'après. Donc, s'ils peuvent avoir tôt un petit projet d'orientation, c'est déjà très bien. Donc ça, déjà, je pense que c'est notre principale tâche, les faire réfléchir à l'orientation. Mmh. Alors après, on doit être là aussi pour répondre à leurs questions, dans le sens où il faut leur donner de la documentation. En troisième, il y a des rencontres avec la PSYEN, l'enseignement, la conseillère d'orientation, pour les différentes filières. On leur montre les sites importants, on leur conseille les différentes portes ouvertes de lycée. Il y a même des visites de lycée aussi qui sont organisées par les professeurs, voilà, pour bien connaître les différentes filières autour d'eux.
De mon souvenir, au collège, on nous parlait beaucoup de la seconde générale, mais très peu des filières professionnalisantes, telles que bac pro, CAP, que ce soit les profs ou conseils en orientation, beaucoup dénigraient ces formations. Alors pourquoi ? Je pense que quand c'est ce qu'on veut faire, ça peut être mieux d'aller dans une filière professionnalisante plutôt qu'une filière générale. Pourquoi c'est autant dénigré ?
Bien sûr, je suis d'accord avec toi. En fait, je pense que c'est une erreur. C'est des choses, je pense qu'il faut remonter à des directives, des idées, qui remontent, mais qui commencent à dater, d'année en avant, de l'idée comme quoi, par exemple, tout le monde devait absolument acquérir un haut niveau d'études, etc. Comme si, en fait, c'est forcément le diplôme qui allait faire que les gens allaient améliorer leur situation ou du moins obtenir des emplois mieux qualifiés, etc. Je pense qu'on n'a pas vu les effets négatifs. Enfin, les conséquences, l'effet un petit peu pervers, tout ça, de dire, par exemple, il faut tant de personnes qui aient le bac. Oui, en soi, si on prend ça comme ça, on se dit, c'est un progrès, c'est-à-dire que les gens sont mieux qualifiés, donc ça veut dire aussi des meilleurs salaires, des métiers moins réputés difficiles, etc. Mais les conséquences, c'est que, justement, je pense qu'on a délaissé les filières professionnalisantes, comme tu dis. Alors, délaissé, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais du moins, effectivement, elles ont eu mauvaise publicité, souvent, beaucoup moins de visibilité.
C'était souvent les mauvais élèves, ceux qui n'étaient pas très scolaires, on les envoyait là-bas.
Et un des effets pervers, exactement, c'est ça.
Si tu allais là-bas, c'est pas que c'était un échec, mais que tu n'avais pas réussi ta scolarité. C'est comme ça qu'on le vendait.
Et c'est comme ça que c'était ressenti. Moi, je vois tout à fait. Je m'en rappelle aussi, il y a l'idée que, t'es mauvais élève, tu te comportes mal, tu vas en finir professionnalisant. Non, je pense qu'il y aura un travail à faire, même si on en a conscience. Et du coup, les professeurs accordent plus, on va dire, d'importance à bien expliquer ces filières. Peut-être qu'on ne le fait pas encore assez, je pense. Mais disons, filière professionnalisante, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on te forme plus vite à la vie professionnelle. Donc, pour des élèves qui se déscolarisent ou des élèves qui, effectivement, qui ne sont pas très portés vers les cours, qui se sentent mal à l'aise à l'école ou qui ne sont pas du tout scolaires, comme on dit, bien sûr que c'est une filière qui est adaptée pour eux. Et heureusement, qu'ils ne soient pas obligés de faire des longues études alors qu'ils s'y sentent mal. Mais en même temps, l'enjeu, c'est de faire comprendre que ce n'est pas justement une filière poubelle pour gens qui ratent leurs études. C'est surtout pas ça, quoi. Et ça, c'est dur. C'est pas évident de le faire comprendre aux élèves et de leur dire que si vous avez un métier, moi j'essaie de leur dire, si vous avez un métier en tête dès maintenant, il faut pas forcément se priver d'aller en CAP, en BEP, en filière professionnelle, si c'est le métier qui vous plaît.
C'est ça.
Vous trouverez du travail sûrement peut-être plus vite que certains qui vont faire des longues études. Et en plus, il y a plein de filières qui sont preneuses. Nous, on emmène nos élèves en visite dans les entreprises, là, dans la zone sonore. Les usines de plasturgie, par exemple, sont contents de nous recevoir parce qu'ils ont mauvaise pub ou alors pas de pub, en fin de compte. Alors qu'il y a des formations à Chalons sur la plasturgie. Donc ils nous disent emmenez-nous des élèves et si certains élèves se disent à la fin des visites ça pourrait peut-être m'intéresser la vie dans une entreprise, là je pense que c'est une bonne étape.
Oui, est-ce qu'on devrait voir ça plus la seconde générale, on peut y aller si on sait pas trop quoi faire et si on est assez scolaire, bon, que ça ne dérange pas de faire des longues études. Si c'est ce qu'on veut faire, pourquoi ne pas aller directement en filière professionnelle.
Exactement. Bah, disons que voilà, on est encore dans l'idée et ça s'entend encore beaucoup. Les grands diplômes et pousser les diplômes, voilà. Bon, c'est sûr que ça donne accès à des métiers, oui, plus qualifiés, plus rémunérés, etc. C'est sûr. Mais c'est pas forcément l'idéal et c'est surtout, c'est pas le remède à tout non plus.
Enfin, on sera pas plus heureux si on a un meilleur salaire et qu'un boulot nous plaît pas. Faut mieux faire un boulot qui nous plaise.
Oui, c'est sûr.
Enfin,
ouais,
c'est sûr. Mais, voilà.
Et puis tout simplement, voilà, il faut de se projeter. C'est pas évident, à la fois pour les parents et les élèves, de se dire, bah peut-être que là, voilà, le lycée, ça va peut-être être trop dur pour moi. Peut-être mieux que je pense à ça, parce que voilà, il y a des gens qui pensent qu'il faut absolument aller au bac ou aller plus loin, etc. Non. Alors qu'on peut avoir justement une vraie formation de qualité, trouver un métier qui nous plaît, sans passer par là. Enfin, du moins, en passant par les filières
professionnelles. Tu penses que ça évolue, on dénigre de moins en moins, ou est-ce que c'est encore assez présent?
Disons que je pense pas que ce soit dénigré maintenant, j'ai pas l'impression. Mais par contre, il n'y a peut-être pas cette publicité. Alors après, encore que, voilà, par exemple, prochainement, je sais qu'il y a les compagnons du devoir qui viennent faire une petite réunion au collège, et moi j'ai plein d'élèves dans ma classe dont je suis PB qui sont venus me demander pour y assister.
D'accord.
Les élèves, toute mère, enfin comment dire, ils font avec ce qu'on leur propose, donc si on leur parle pas de ces choses-là, ils vont pas s'y intéresser d'eux-mêmes. Pour la plupart, voilà, qui n'ont pas forcément aussi derrière eux des gens qui les poussent à réfléchir à l'orientation.
Plus légèrement, pour finir cette interview, as-tu une petite anecdote, quelque chose de spécial qui s'est passé pendant tes années collège ou...
Quelque chose qui s'est passé pendant mes années collège, il y en a tellement des choses... C'est dur de dire. Franchement, c'est dur. J'aurais su la question, j'aurais pu rechercher. Parce que j'ai noté des petites choses qui ont été dites pour mes élèves. Bah, évidemment, il y a dans les copies, des fois, c'est très, très drôle ce qu'ils peuvent nous dire comme bêtises. Qu'est-ce que j'ai vu dernièrement qui m'a fait beaucoup rire? Ah, la peut-être dernière en soi. Bon, après, il y en a qui sont plus, plus sensibles que d'autres. Mais par exemple, l'autre fois, j'ai eu en contrôle des troisièmes qui commentaient une image avec Hitler portant un drapeau nazi. Mais justement, on était là-dedans. Et il y en a qui m'a dit qu'il était en train de fumer une cigarette. Voilà, on sait pas d'où ça vient. Donc, ouais, c'est des petites choses un petit peu rigolotes comme ça.
Donc, ça fait partie, ça, c'est marrant.
Non, ça, oui, il y en a très souvent. Ouais,
c'est... D'accord. On arrive à la fin de cette interview. Merci, Robin Bu, à toi d'avoir répondu à nos questions.
Bon, de rien, c'était avec plaisir.
Je le rappelle, vous êtes enseignant d'histoire-géographie au collège Jacques Prévert de Châlons. Excellente journée à tous sur les ondes de Radio Prévert.
Bonne journée à vous.
C'était Portrait de prof sur Radio Prévert 105.9, la radio qui vous change d'univers.